des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous cette semaine? Je vais bien, merci beaucoup. Et cette semaine, j'ai à vous proposer tout d'abord un bouquin à l'émission des livres pleins les oreilles. Vous ai-je dit que je m'appelle Clotilde Sey? Enfin, vous saviez déjà. Alors voici donc, pour commencer, un bouquin qui m'a interpellée, car je dois dire que son auteur, qui s'appelle Stéphane Rousseau, vous savez très bien qui c'est, eh bien, Monsieur Rousseau, moi personnellement, est un homme qui me surprend beaucoup, ne serait-ce que par la multitude de ses talents. Alors, j'ai eu envie de me plonger dans sa bio. Ça s'appelle « Famille royale ». Et on va la découvrir ensemble. Ensuite, on va commencer à éplucher les 10 livres en nomination pour le prix Audiolib 2025, parce que comme il y en a 10, ben, j'en ferai peut-être 2 de temps en temps. Je vais recevoir Gérald Cousineau, qui a écouté pour vous La nourrice de Francis Bacon, ou Bacon, en tout cas, ça, je l'entends souvent de deux façons. Et nous finirons avec deux nouveautés exceptionnelles. Mais vraiment exceptionnel. Je parle de Inconsolable de Adèle Van Riet et Liberté, la biographie absolument passionnante de Madame Angela Merkel. Famille royale, donc, de et lu par Stéphane Rousseau. Je dirais que c'est une bio. Pas comme les autres, peut-être parce que dans sa simplicité, dans sa lucidité, mais aussi dans son langage et dans ce qu'on peut y trouver, c'est quelquefois très cru, mais c'est aussi empreint d'une profonde tendresse pour les gens qu'il a aimés, pour les gens de cette famille royale. Donc Stéphane Rousseau qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui, malgré les drames qui se succèdent dans sa vie, choisit de faire rire les autres depuis tout petit. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la voie à l'homme et à l'artiste, ainsi qu'au père d'ailleurs, qu'il est devenu. C'est le portrait d'une famille atypique, d'une famille aimante, une famille qui navigue entre le dysfonctionnel et la magie. Hein, parfois, c'est pas si différent. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, on rentre dans l'usine du père, on rentre dans les campings nudistes où les enfants ont grandi. Et puis, il y a aussi et surtout les maladies incurables. Et puis, les fêtes, les non-dits, la boisson. Bref, la classe moyenne et le succès fou d'un fils vedette, précisant que son père et sa mère, ainsi que sa sœur Louise, sont tous les trois décédés du cancer. Stéphane Rousseau, rien que ça, c'est pas banal. Alors la vie quotidienne n'était pas toujours pavée de roses, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que j'ai lu dans les critiques, drôle, émouvant et jamais ennuyant. L'ouvrage est un véritable page-turner, avait-on écrit dans le Journal de Québec. Les anecdotes aussi absurdes que dramatiques s'enchaînent page après page, nous laissant pantois et parfois perturbés à la lecture de certains passages, bien qu'il confie avoir adoucit certains bouts de son histoire. Stéphane Rousseau prend le parti et le pari d'aller très loin. En voici un extrait de Famille royale, de et lu par Stéphane Rousseau.
Je suis né le 17 septembre 1966 dans une famille d'ouvriers, fils de Berthe Lalande, soudeuse, et de Gilles Rousseau, ajusteur de matrice. Tous deux travaillaient à la Continental Can, 4000 employés, à l'angle de Descarry et du Métropolitain. Ils avaient des jeunes filles, alors élèves à la maternelle, nées le même jour que moi. Très tôt, j'ai eu envie de me donner un spectacle. Il faut dire que j'avais de qui tenir. Papa Gilles était très drôle, avec ses blagues de mauvais goût. Maman Berthe était bon public. Et grande sœur Louise excellait dans l'humour noir, quand elle faisait pas la gueule. Ma sœur était pas douée pour le bonheur. T'sais. On avait beau partager une chambre et une date d'anniversaire, on était différents. Je m'amusais avec un rien. Pour Louise, c'était plus compliqué. On vivait dans une modeste maison de Saint-Henri, en bas de chez ma tante Huguette puis mon oncle Georges. C'était les meilleurs amis de mes parents. On s'amusait bien dans la cour et la ruelle. Tout était vieux, tout était laid, mais on trouvait que notre faubourg à Amelas avait un certain cachet. Combien de soirées barbecue à s'amuser sur les balcons arrière de nos maisons. Ça fumait, ça buvait, ça rigolait. C'est quand j'ai soufflé mes trois bougies qu'on est monté dans les échelons de la société en déménageant à La Salle. C'est pas un gros échelon, mais quand même. Un beau petit semi-détaché de style rococo italien avec une vue sur le parc Ouellette. Dans la maison, des meubles coloniaux espagnols, des fragments de miroirs au mur, du stucco au plafond, un sous-sol en préfini avec un bar de pierre, un escalier en retail de marbre et beaucoup, beaucoup d'animaux en paille. Sur la rue, des Italiens, des Haïtiens, des Polonais et quelques Québécois dits de souche. Mon père s'est rapidement mis à manger de l'anguille et des rognons, à faire son prosciutto, sa sauce tomate et son vin de pissenlit. Mon oncle Georges et ma tante Huguette venaient souvent nous visiter. Un soir de juin, ils ont proposé à mes parents de les accompagner à leur nouveau camping. Un camp de nudistes aux États-Unis. Le Apple Glen. Bon, ma mère n'était pas vraiment chaude à l'idée, contrairement à mon père, qui était chaud comme la braise. On était donc italiens la semaine et tout nus la fin de semaine. Je me suis habitué plus vite au camp nudiste que ma sœur. Elle qui était déjà complexée à 11 ans avec son 36D et qui mieux qu'un petit frère de 6 ans pour en rajouter.
Tu t'en vas où avec tes 5 galons?
Mon père aimait aussi lui lancer des commentaires à l'humour bas de gamme. Mais Louise, elle nous trouvait pas très drôle. Avec raison. Donc, c'est à 5 ans que je suis monté dans les échelons de la société. Bon, c'est aussi à cet âge-là que je suis monté pour la première fois sur les planches. Celle de la table de cuisine, dans une combine à panneaux appartenant à mon père. Bourré de 3 oreillers, j'ai connu mon premier succès. Ma mère était pliée en deux. Mon père aussi. Ma sœur trouvait ça nul. Et moi, j'étais déjà accro.
C'est bien, hein? C'est... En plus, je suis certaine que le réalisateur ou la réalisatrice de ça a dû lui dire « ralentis ». Ralenti parce qu'il a parfois tendance à parler vite, mais là, il fait attention. C'est vraiment sympathique. Et puis, on y est, quoi. On sent la bouffe italienne, on sent tout ça. C'est parfait. Puis alors, personnellement, ce que j'adore, c'est qu'on ne sent pas la lecture. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui s'adresse à nous. Et ça, c'est, pour moi, c'est formidable. Alors, merci beaucoup, M. Stéphane Rousseau, à qui l'on doit donc cette famille royale, cette biographie que vous pouvez trouver notamment sur le catalogue Nara ou encore, non, ça c'est chez Audio, oui, excusez-moi, ça c'est chez Audio, c'est complètement gratuit, alors ruez-vous là-dessus. Anne au Pignon Vert, la maison au Pignon Vert, pas Anne, la maison au Pignon Vert vient d'être reconnue comme patrimoine canadien. C'est vrai que j'en avais déjà parlé de ça, mais... En fait, de la série en audio, mais pas du fait que maintenant, cette œuvre-là, ce manuscrit de Lucie Maud de Montgomery a été inscrite au registre de la mémoire du monde du Canada, administré par la Commission canadienne pour l'UNESCO, et ce, en l'honneur du 150e anniversaire de Madame Montgomery. Alors, qu'est-ce que ce registre-là comprend? Eh bien, 475 pages manuscrites de Madame Montgomery et 96 pages supplémentaires pour les notes qui ont été ajoutées au célèbre texte. Pour mémoire, Madame Montgomery est née à l'Île-du-Prince-Édouard le 30 novembre 1874 et elle s'est inspirée de la maison de son enfance située dans la ville de Cavendish pour le décor du roman. Depuis sa publication en 1908, Anne, la maison au Pignon Vert, qui raconte les aventures d'une orpheline de 11 ans, la petite Rouquine, voilà, attire chaque année des milliers de touristes dans l'île. C'est fou, hein? Tous les ans, il y en a qui ont envie de voir la maison, la ville, etc. Alors, je vous propose un extrait de Anne, la maison au pignon vert, écrit, je vous le rappelle, par Lucie Maud Montgomery. Là, c'est lu pour la production qu'en a fait Radio-Canada Audio par Catherine Proulx-Lemay.
Importants sont toujours liés à de petites choses. Au premier abord, on ne voit pas comment la décision d'un premier ministre du Canada de se rendre à l'île du Prince-Édouard au cours d'une tournée politique aurait pu avoir la moindre influence sur le destin de la petite Anne Shirley de la maison au pignon vert. Et pourtant, le premier ministre vint en janvier pour s'adresser à ses partisans loyaux et aux autres lors d'un énorme ralliement qui eut lieu à Charlottetown. La plupart des habitants d'Avonlea appuyaient le premier ministre. Aussi, le soir du ralliement, presque tous les hommes et une bonne proportion des femmes s'étaient rendus en ville à 30 km d'Avonlea. Madame Rachel Lynde était du nombre. Animée d'une incroyable ferveur politique, elle n'aurait jamais accepté qu'un ralliement semblable puisse avoir lieu sans elle, indépendamment de ses faveurs personnelles qui n'allaient pas au premier ministre. Elle se rendit donc en ville et emmena son mari, Thomas serait utile pour s'occuper du cheval, et Marilla Cuthbert. Marilla éprouvait pour la politique un penchant inavoué, et se disant qu'il s'agissait peut-être là de sa seule chance d'apercevoir un premier ministre en chair et en os, elle n'hésita pas à la saisir et abandonna la maison aux bons soins d'Anne et de Matthew jusqu'à son retour, prévu pour le lendemain. Aussi, tandis que Marilla et Madame Rachel s'en donnaient à cœur joie à Charlottetown, Anne et Matthew se partageaient les plaisirs de la cuisine de Green Gables. Un beau feu vif rougeoyait dans le vieux poêle Waterloo, tandis que sur les vitres se formaient des cristaux de givre irradiant un éclat bleu et blanc. Matthew, sur le canapé, hochait la tête en lisant le Farmer's Advocate, la revue des agriculteurs, tandis qu'Anne, à la table, étudiait ses leçons avec ardeur, tout en lançant à la dérobée des regards nostalgiques vers l'étagère où se trouvait l'horloge et surtout le nouveau livre que Jane Andrews lui avait prêté le jour même. Jane lui avait assuré que ce livre était passionnant, stimulant ou autre épithète du même sens, et Anne en avait les doigts qui lui démangeaient à force d'être tentée de le saisir. Mais cela aurait signifié une victoire de Gilbert Blythe le lendemain. Anne tourna donc le dos à l'étagère et au livre et s'efforça d'oublier leur existence. « Matthew, quand tu étais à l'école, as-tu jamais étudié la géométrie ?»«
Eh bien, non. »«
Non, » fit Matthew, se réveillant en sursaut. J'aimerais tant que ce soit le cas, soupira Anne, car tu pourrais me comprendre. On ne peut pas vraiment comprendre ce qu'est la géométrie tant qu'on ne l'a pas étudiée. C'est une sorte de nuage qui assombrit toute ma vie. Je suis tellement mauvaise en géométrie, Matthew. Je me demande si Marilla et Madame Lynde s'amusent bien. Selon Madame Lynde, le Canada est sur une bien mauvaise pente, et cela à cause de la manière dont on décide des choses à Ottawa. Et elle déclare que c'est un sérieux avertissement pour les électeurs. Elle dit que si les femmes avaient le droit de vote, les choses changeraient vite pour le mieux. Tu votes pour qui, toi, Matthew?
Conservateur, se hâta de répondre Matthew.
Voter conservateur pour Matthew, c'était une sorte de religion. Alors, je suis pour les conservateurs moi aussi, poursuivit Anne d'un ton décidé. Je suis contente, parce que certains des gars à l'école sont des libéraux, des rouges, comme ils disent. Je pense que M. Phillips est rouge, étant donné que le père de Prissy Andrews l'est aussi, et Ruby Gillis prétend que lorsqu'un homme fait la cour à une fille, il faut toujours qu'il soit du bord de sa mère pour la religion et du bord de son père pour la politique. Est-ce que c'est vrai, Matthew?
Eh bien, disons que je ne sais pas, fit Matthew.
Il y a beaucoup de choses dans ce bas monde que je ne comprends pas très bien, Matthew.
Eh bien, disons que moi, je ne les comprends pas trop non plus.
Et puis cette musique qui illustrait la série de Anne, la maison au pignon vert, musique d'ailleurs de Hagood Hardy. Voilà, on les nomme jamais assez. Il fallait que cela soit dit. La voix était celle de la comédienne Catherine Proulx-Lemay en lisant cet extrait. Bon, Les prix Audiolib 2025, ben oui, tous les ans, vous allez vous dire, ah, il me semble qu'elle en a déjà parlé l'année dernière. Ben oui, puis l'année d'avant aussi. Les prix Audiolib, un petit rappel, ils sont nés en 2013. Ça faisait 5 ans à ce moment-là que la maison de production de livres audio française, Audiolib, avait lancé cette petite entreprise-là à l'époque, qui est devenue maintenant un joueur très important dans le domaine du livre audio. Alors, en 2013, ce qui s'est passé, c'est que Audiolib a lancé le premier prix éditeur du livre audio, avec le prix Audiolib, donc ce prix qui vise à récompenser le meilleur livre audio, Audiolib de l'année, autant pour sa lecture que pour son contenu. Ça se passe comment ? En décembre, l'équipe d'Audiolib sélectionne 10 titres. Ces 10 livres-là sont ensuite soumis à un jury de blogueurs, des passionnés de livres audio. Non, je n'en fais pas partie, je manquais de temps à ce moment-là, sinon je l'aurais fait volontiers. Et puis les jurés reçoivent les livres audio présélectionnés, ils les écoutent et ils choisissent leurs 5 titres favoris. Et ces 5 titres-là sont enfin départagés par les internautes grâce à un vote en ligne. À l'issue de ce vote, le titre ayant remporté le plus de voix est élu gagnant du prix Audiolib. L'année dernière, petite colle, vous vous souvenez du livre qui avait reçu le prix Audiolib ? C'était La dernière allumette de Marie Vareille, lue par Caroline Tillette. Cette année, parmi les 10 titres en lice, dont certains d'ailleurs ne sont pas encore au catalogue, on retrouve notamment Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. C'est lu par Thierry Blanc sur une musique de Piero Piccignoni. Voilà, je savais que j'allais chuter là-dessus. Piccignoni. Bon, le résumé, c'est l'histoire d'une fatalité. Hein. Ça porte bien son nom, Chronique d'une mort annoncée. Les amis, la famille, les criminels eux-mêmes vont tenter de déjouer ce que Gabriel Garcia Marquez annonce, c'est-à-dire la mort annoncée de ce jeune homme sur ce bout de terre tropicale. C'est une histoire qui se déroule, c'est un petit peu comme des cercles concentriques, hein. C'est comme une spirale, voilà, je vais dire ça comme ça, une spirale infernale qui va précipiter la victime vers sa fin, une fin qui est connue de tous, qu'ils soient d'ailleurs acteurs ou lecteurs. Et ça présageait de ce que serait quelques années plus tard 100 ans de solitude. Extrait de Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, c'est lu par Thierry Blanc.
Jour où il allait être abattu, Santiago Nassar s'était levé à 5h30 du matin pour attendre le bateau sur lequel l'évêque arrivait. Il avait rêvé qu'il traversait un bois de figuiers géants sur lequel tombait une pluie fine. Il fut heureux un instant dans ce rêve et, à son réveil, il se sentit couvert de chiures d'oiseaux. Il rêvait toujours d'arbres. Me dit Placida Linero, sa mère, 27 ans après, en évoquant les menus détails de ce lundi funeste. Une semaine avant, il avait rêvé se trouver seul dans un avion de papier d'étain qui volait à travers des amandiers sans jamais se cogner aux branches, ajouta-t-elle. Placida Linero jouissait d'une réputation bien méritée d'interprète infaillible des rêves d'autrui, à condition qu'on les lui racontât à jeun. Pourtant, elle n'avait décelé aucun mauvais augure dans les deux rêves de son fils, ni dans ceux qu'il lui avait racontés chaque matin, les jours qui avaient précédé sa mort et dans lesquels des arbres apparaissaient. Santiago Nassar non plus n'avait pas discerné le présage. Il avait dormi peu et mal, sans se déshabiller, et il s'était réveillé, la tête lourde, avec un arrière-goût d'étrier de cuivre dans le palais. Il expliqua cela par les ravages naturels de la noce effrénée qu'il avait faite la veille jusqu'au petit matin. Les gens qu'il rencontra ce jour-là lorsqu'il sortit de sa maison à 6h05 avant qu'il ne fût éventré comme un cochon une heure plus tard, le trouvèrent légèrement somnolent mais de bonne humeur. Il dit à chacun, sans y attacher d'importance, que c'était une très belle journée. Nul ne pouvait affirmer s'il faisait alors allusion à l'état du ciel. Nombreux étaient ceux qui se souvenaient d'une journée radieuse, rafraîchie par une brise de mer qui traversait les bananiers, comme cela aurait dû être le cas pendant un bon mois de février en d'autres temps. Mais la plupart s'accordaient pour affirmer qu'il faisait un temps lugubre, avec un ciel bas et menaçant, sur un fort relent d'eau stagnante, et qu'à l'instant où le malheur s'était produit, il tombait une petite pluie fine semblable à celle que Santiago Nasar avait vue dans la forêt de son rêve. Personnellement, je me remettais de la bacchanale dans le giron apostolique de Maria Alexandrina Cervantes, et c'est à peine si j'ouvrais un œil en entendant le charivari des cloches qui sonnait le tocsin, convaincu qu'elle carillonnait en l'honneur de l'évêque. Santiago Nasar avait revêtu un pantalon et une chemise de lin blanc non empesé, identique à ce qu'il arborait la veille pour le mariage. C'était sa tenue des grands jours. N'eût été l'arrivée de l'évêque, il aurait enfilé son costume kaki et les bottes de cheval avec lesquelles il se rendait tous les lundis à El Divino Rostro, l'hacienda héritée de son père et qu'il administrait avec un grand bon sens, à défaut d'une grande réussite. Pour ses randonnées, il portait à la ceinture un 357 Magnum, dont les balles blindées, affirmait-il, pouvaient vous fendre un cheval en deux. À l'époque des perdrix, il emmenait aussi ses faucons dressés. Dans son armoire, il rangeait une Manly Schirchenauer en 30-06, un 300 Holland Magnum, une 22 Hornet à lunettes à grossissement variable et une Winchester à répétition. Il dormait comme son père avait dormi, l'arme dissimulée dans la tête de l'oreiller. Mais ce jour-là, avant de quitter la maison, il avait retiré les balles du chargeur et déposé le pistolet dans le tiroir de la table de nuit. Il ne le laissait jamais charger, me dit sa mère. Je le savais, et je n'ignorais pas non plus qu'il rangeait ses armes dans un endroit et cachait les munitions dans un autre, très à l'écart, afin que personne ne cédât, même par hasard, à la tentation de les charger dans la maison. C'était une sage habitude.
Cette musique-là n'a pas servi pour le livre audio, mais bien pour le film qui a été tiré du livre de Garcia Marquez, dont on vient d'entendre un extrait, Chronique d'une mort annoncée, un des 10 livres actuellement en lice pour le prix Audiolib. Un autre de ces livres-là, c'est Tata, de Valérie Perrin, lu par Jeanne Chéral. Le résumé ? Oh, une phrase. Colette est remorte. Oui, je sais, ce mot n'existe nulle part. Pourtant, eh bien, Colette est remorte, même si remourir, ça n'existe pas. Colette, une femme sans histoire. Colette, déjà enterrée 3 ans plus tôt. Voilà-t-il pas qu'on la retrouve morte à nouveau, quelque part dans une maison en France. Écoutez, c'est une brique énorme que je suis en train, moi, de lire en audio. Et honnêtement, c'est le genre de livre qu'il faut avoir du temps pour lire, parce que si vous le laissez tomber pendant 3 jours, vous allez avoir du mal à vous raccrocher à l'histoire, c'est ça. Mais c'est vraiment un très bon livre, signé Valérie Perrin. En voici un extrait lu par Jeanne Chéral.
Tata, de Valérie Perrin, lu par Jeanne Chéral, Anne Le Coutour
et Patrick Mancini.
À Claude Lelouch, pour mon frère Yannick, aux absents Jérôme Chaussin et Jean-Paul Didier Laurent. Samuel Paty, Simone Veil, Milos Forman et Elisabeth II étaient encore de ce monde. Barack Obama était président des États-Unis et Vladimir Poutine avait commandité l'assassinat d'Anna Politkovskaya 4 ans plus tôt. Cette année-là a été déclarée France-Russie. J'ignore ce que cela signifie. Les talibans n'avaient pas repris le pouvoir en Afghanistan. Catherine Bigelow est devenue la première femme à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur pour Des mineurs. C'est aussi l'année où Meryl Streep a été nommée pour la 16e fois dans la catégorie meilleure actrice. Le plus haut gratte-ciel a été inauguré à Dubaï, la production mondiale de CO2 a augmenté de 6%. C'est encore l'année la plus chaude jamais enregistrée. Depuis, ce dernier record a été battu. En France, Nicolas Sarkozy était président. TikTok n'existait pas. Adèle ne chantait pas encore « Someone Like You », ni Clara Luciani « La Grenade ». 2010, c'est l'année du « J'accuse » de Damien XVI. 2010, c'est l'année où ma tante est morte pour la seconde fois. Octobre 2010. Allô ?
Bonjour madame.
Bonjour.
Êtes-vous la nièce de Colette Septembre ?
Oui.
C'est la gendarmerie de Gugnon. Je suis le capitaine Cyril Rampin. Je vous appelle pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Votre tante est décédée.
Ma tante ?
Colette Septembre. Je suis avec les pompiers. On vient de trouver son corps au 19 rue des Fredins. Il semblerait qu'elle soit partie dans son sommeil. On emporte sa dépouille à l'Institut médico-légal pour vérification.
Ma tante Colette est enterrée depuis 3 ans au cimetière de Gugnon. Elle habitait rue Pasteur.
J'ai une pièce d'identité sous les yeux. C'est Colette Septembre, née à Curdin le 7 février 1946. Sur la photo, elle est plus jeune, mais elle lui ressemble.
C'est sûrement une erreur. Sans doute un homonyme.
Dans son portefeuille, il y a écrit « Personne à contacter en cas d'urgence, ma nièce, Agnès au 01 42 21 77 47. » Il y a aussi marqué qu'elle veut être incinérée et reposée avec Jean Septembre.
Jean ?
Oui. Vous le connaissez ?
C'était mon père ?
Le frère de votre tante.
Oui. Mais ma tante Colette est morte il y a 3 ans, je vous dis.
Où habitez-vous ?
À Paris.
Votre tante a-t-elle d'autres parents proches ?
C'est moi, la dernière. Je suis la seule. Et ma fille, mais...
Mes condoléances. Quand pensez-vous venir pour reconnaître le corps ?
Un petit peu de piano, parce que ce Jean en question a été pianiste et il a pu s'offrir une carrière de pianiste grâce à sa sœur Colette dans le livre. Voilà. Alors, c'était un extrait de Tata de Valérie Perrin, lu par Jeanne Chéral et Anne Lecoutour. Et voilà ce qui permet d'achever la première partie de cette émission. Vous restez des nôtres ? Ce serait mieux. Anne Massorane, qui vois-tu venir ? Gérald Cousineau, figurez-vous, et le livre La nourrice de Francis Bacon, ainsi que deux nouveautés, hein, puisque je finis toujours par des livres tout chauds, tout frais, sortis des studios, qu'il s'agisse de studios québécois, mais ce sont plutôt des studios européens, en fin d'émission. Alors, il y aura Inconsolable, un livre que j'ai commencé aussi à écouter et qui est absolument magnifique, d'Adèle Van Rie. Et puis, le petit dernier, la dernière bio que j'ai à vous proposer et dont nous parlera d'ailleurs l'ami Gérald Cousineau la semaine prochaine, c'est Liberté d'Angela Merkel. J'ai très très hâte qu'il nous en parle. D'ailleurs, j'ai très hâte de lui dire bonjour. Salut, comment ça va Gérald ?
Salut Clotilde, mais ça va très bien, merci.
Bon, la nourrice.
On attend de la neige,
oui. Bien. Moi, ça me dérange pas trop, à part que c'est parfois un petit peu plus difficile pour se déplacer, quoi.
Oui,
mais c'est tout.
Sûr.
Mais c'est tout. Bon. La nourrice de Francis Bacon. Toi, tu dis comment, Bacon ?
Oh oui, bacon, bon. À l'anglaise, à l'irlandaise.
Alors, bon, c'est ça, parce que c'est comment sont mes compatriotes français. Moi, j'ai toujours entendu Francis Bacon. Alors, c'est pour ça que là, je ne savais pas. Mais je me doutais bien qu'ici, ça ne passerait pas, Bacon. Alors, et nous revoilà aussi dans l'univers. Donc, nous voilà dans l'univers de ce futur grand peintre. Mais Mélisse Besséry, on en avait parlé récemment, je pense. Hein, c'est une autrice que tu avais appréciée. Hein.
Peut-être, oui. En fait, c'est une romancière et productrice de radio française. Elle est assez jeune, elle est née en 1982, donc elle n'est pas 50 ans.
Ben oui.
Elle a écrit trois romans jusqu'à présent, et ces trois romans forment une trilogie. J'aimerais en parler un petit peu avant de passer à Francis Bacon. Donc, trois romans consacrés à l'Irlande. Et le premier est consacré à Samuel Beckett. Il s'appelle Le Tiers-Temps, publié en 2020. Le livre a quand même gagné le Goncourt du premier roman, c'est quelque chose.
Oui.
Donc, il raconte les derniers jours de Samuel Beckett dans une maison de retraite parisienne qui s'appelle, et qui je crois s'appelle encore, Le Tiers-Temps. Et le deuxième roman, c'est Les Amours dispersés. Là, elle parle d'une autre gloire irlandaise nationale, le poète Samuel Butler Yeats, Y-E-A-T-S.
Mm-hmm.
Et le troisième tome est paru en 2023. Là, c'est La nourrice de Francis Bacon. Donc 2023. Et c'est ce livre dont je parle aujourd'hui. Eh bien, juste avant de parler du roman comme tel, j'aimerais juste préciser que Francis Bacon est né en Irlande, oui, en 1909, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est mort à Madrid en 1940.
Et même avant la première, même.
Oui, oui, avant la première. Et bien sûr, il a connu les deux guerres mondiales.
Il a connu les deux.
Mais il faut aussi rappeler qu'il est né dans une famille anglaise. Mais famille anglaise installée au nord de Dublin, donc en Irlande. Et pourquoi je dis? Parce que à l'époque, c'est la guerre d'indépendance qui fait du bruit, et les familles anglaises, les familles anglo-protestantes sont bien sûr ciblées par l'IRA. Donc, il y avait toujours une menace sur les familles anglaises, et donc cette famille-là s'installe à la campagne dans le comté de Kildare, au nord de Dublin. Bon, alors, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse
Oui, tu veux entendre l'extrait.
Avec le petit Francis, voilà.
Oui, c'est ça. Alors, c'est lu par Daniel Lebrun.
Il est tellement mignon, ce petit. Ah, tellement sensible. Si ça peut le rassurer, je le porte, hein. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il est calme avec moi, très affectueux. Il se cache dans mon cou, il pose sa tête sur mon épaule. C'est qu'il faut voir, hein. Comment se passe la vie ici? Les enfants n'ont droit à rien, parqués comme des bêtes à l'étage, et encore dans l'aile du fond. C'est tout juste s'ils reconnaissent leurs parents quand ils les voient à l'heure du thé ou au déjeuner du dimanche. On les fait appeler pour qu'ils sourient de toutes leurs dents aux invités. Les parents leur serrent la main comme à des étrangers et me les rendent aussi secs. On croirait des pesteux. Ah, ces gens-là. Pas d'effusion, vous pouvez être tranquille. Quand je pense à la tendresse de monsieur pour ses chiens, aux caresses qu'il leur dispense. Enfin, pour revenir à cette histoire de bottines, j'étais furibarde. Voyez-vous, j'ai été forcée d'emprunter des bottes aux écuries jusqu'au lendemain. Et ces palefreniers, ça, je les aime pas. Pas du tout. Ah non. Des brutes, des sagouins, toujours à se vider les narines dans leurs manches ou à s'accroupir derrière les buissons. Quand on leur met le nez dedans, ils osent dire que ce sont les chiens. Ah ben, ça. Ce coup-là, ils me le font pas à moi.
Daniel Lebrun, grande comédienne française.
Oui, très bien lu, hein.
Oui. Ah oui, c'est un régal. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette nourrice, pour qu'on en fasse un bouquin?
D'abord, c'était justement un personnage méconnu dans la vie, mais un personnage, on s'en rend compte, central dans la vie de Francis Bacon. Eh bien, à 15 ans, elle est transplantée des Cornouailles en Angleterre à l'Irlande. Comme bien d'autres petites Anglaises, elle devient une bonne à tout faire en Irlande, dans des familles anglaises, dans des familles bourgeoises. Alors donc, dès l'âge de 15 ans, elle s'occupe des enfants dans cette famille bourgeoise. Le père, c'est un militaire à la retraite qui a acheté un domaine donc en Irlande, au nord de Dublin. Il y fait l'élevage de chevaux de course, mais l'extrait nous l'a dit, c'est un père assez autoritaire. Ici, on dirait carrément un parfait salaud.
Ouais,
c'est
ouais,
un parfait
ouais.
salaud. Et les enfants sont traités, on l'a dit, ils sont logés en haut, là, comme des parqués comme des bêtes. Il ne leur fait pas de cadeaux. Et dès que Francis Bacon commence à montrer un peu... une attitude efféminée, oh là là, c'est le scandale.
Ouais,
il va l'envoyer un bout de temps à Berlin avec son oncle, mais son oncle se révèle homosexuel comme Francis Bacon. Alors, le père se fait jouer un beau tour.
Ouais,
donc, ouais. Je veux juste dire, avant qu'on aille trop loin, que le roman est bizarrement divisé en trois parties, et les trois parties s'appellent tragédie. Il y a d'abord celle du père.
Oui.
Il y a d'abord ensuite celle de Nanny. Nanny, c'était la nourrice. C'est comme ça que l'appelait Francis Bacon, Nanny. Et la troisième s'appelle Peter et George. On verra tantôt qui sont ces deux lascars. Donc, la première, le père, ben, on l'a dit, le père est assez autoritaire. Il ne laisse rien passer. Les enfants sont traités vraiment comme, j'ai envie de dire, comme de la merde. Ils voient leurs parents de temps en temps, mais c'est effectivement la nounou, la Nanny, qui va sauver. Francis Bacon, l'amour, la tendresse qu'il va lui porter, n'empêche que, bien sûr, Bacon va vivre sa vie, une vie, on sait, hein, particulièrement débridée, sulfureuse, et ça va se traduire dans son œuvre, mais elle va quand même aimer cet enfant-là, et l'extrait nous l'a bien montré, elle va aimer cet enfant-là comme si elle était sa vraie mère. Vraiment, il y a une belle relation, et ce personnage de en fait, c'est Jesse Lightfoot, son vrai nom, mais ce personnage de la nourrice, de Nanny, est extraordinaire. Vraiment, quel beau portrait de femme. Elle a un humour, mais un humour, je dirais, de paysanne.
Oui.
C'est une femme très peu instruite, mais très intelligente. Elle sait tout de suite comment se comporter dans cette famille-là. Et donc, cette femme-là a un humour, une gouaille, comme on dirait en France. C'est absolument savoureux. Elle va souvent dire des choses. Bon, vous savez ce que je veux dire. Hein? Vous savez
Mais absolument. Pourquoi je sais? Parce que vous pensez...
Non, mais ça fait une narration extrêmement délicieuse. Bon, bien sûr, j'ai écouté le livre. Et le livre est divisé également... les chapitres sont divisés il y a deux sortes de chapitres. Dans les premiers chapitres, dans certains chapitres, elle raconte, bien sûr, la vie de Francis Bacon. Et dans les deuxièmes, là, c'est Francis Bacon qui pratique une sorte de monologue intérieur tout en peignant, tout en faisant ses œuvres. Et ça, c'est assez violent. On sait que l'œuvre de Bacon est sulfureuse, même s'il y a des souvenirs de l'Irlande qui transparaissent dans ses œuvres, des animaux, par exemple des décors, des paysages. Parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais on parle, au début, c'est la première moitié du 20e siècle, et là, l'enfance de Bacon, c'est d'abord et avant tout l'Irlande. Et là, il en parle d'une façon magnifique. Et là, c'est vraiment la verte Irlande des cartes postales. On a envie d'y être, Clotilde, on a envie d'y être. Ah là là. Et le jeune Francis est déjà saisi par la beauté. Il y a des scènes où il est là, assis dehors, à regarder la verdure, à regarder la mer. Et ça, c'est vraiment très beau. Et là, lentement, mais sûrement, le peintre en lui va éclore. Il va finir par aller à Londres, parce que son père le fout à la porte carrément. Il va faire un court séjour à Paris, puis il va se retrouver à Londres, mais il en arrache au début. Oh là là, il en arrache. Or, pendant ce temps-là, Nanny, elle s'ennuie de son petit Francis. Elle perd la vue, malheureusement. Elle perd lentement, mais progressivement la vue. Donc, un jour, elle va être recueillie littéralement par Francis à Londres. Il a un petit atelier. Imaginez la scène. Elle dort dans un lit. Elle dort assise à la table de la cuisine, les bras dans ses coudes, la tête dans ses coudes, je veux dire. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Elle accepte parce qu'elle est avec Francis. Et elle va, ils sont pauvres, elle va chaparder dans les rues, chez les commerçants. Elle va chaparder ici et là de quoi tenir, aider Francis à tenir le coup. Donc vraiment, c'est la misère totale, mais c'est pas grave, l'amour est là. Et là, elle va agir comme une sorte de conseillère protectrice de Francis, parce que lui, il mène de plus en plus une vie absolument débridée. Les amants se suivent, elle accepte ça. D'ailleurs, elle fait un rapprochement avec, sans le nommer, elle fait un rapprochement avec M. Oscar Wilde, qui, on sait, a été emprisonné pour son homosexualité.
Bien sûr.
Et là, elle se rend bien compte que son Francis a un comportement sexuel hors de l'ordinaire, si on peut dire, débridé, une vie sulfureuse, mais elle va quand même veiller sur lui jusqu'à sa mort. Et bien sûr, la mort de Nanny va faire très mal à Francis. Il va encore multiplier les aventures, dont les deux lascars que j'ai nommés tout à l'heure.
C'est ça.
Peter et George, deux amants particulièrement brutaux, voleurs, etc. Mais encore une fois, je reviens...
La vie comme un roman, quoi. C'est vraiment une histoire extraordinaire.
Oui.
Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens de vos commentaires, mon ami.
D'ailleurs, elle va dire une petite phrase qui déjà donne une bonne idée du personnage. Elle va dire de Francis... comment il dit ça? Il faut qu'il y ait dans sa vie carnaval et feu d'artifice tous les jours. Sinon quoi? Sinon l'angoisse le reprend. Mais c'est ça, c'était déjà ça, Francis Bacon. La fête tous les jours, la fête tous les jours. Alors le père à côté de ça, il faisait plutôt pas le pique.
Gérald, vous nous parliez avec beaucoup d'enthousiasme de La Nourrice de Francis Bacon, de Mélisse Bessery, lue par Daniel Lebrun et Noam Morgenstern. Je vous remercie infiniment pour ce... Encore une fois, c'est un livre que je vais me le procurer. Qu'est-ce que vous voulez que
je dise? Oui, ça vaut vraiment la peine, vraiment.
Je vous remercie, puis je vous dis à tout bientôt.
À bientôt, Clotilde.
Merci, Gérald.
Merci.
Deux nouveautés vraiment admirables. D'abord, Inconsolable d'Adèle Van Riet. C'est lu d'ailleurs par l'autrice. La musique qu'on va entendre est celle de Keith Jarrett et il y a une bonne raison pour ça. L'autrice présente elle-même son livre ainsi. Qu'est-ce que ça change vraiment de perdre son père? Sans croyance en un au-delà, que signifie l'ultime disparition de ce qui est rien? Rien ne change et pourtant le monde n'est plus le même. Il faut s'habituer à vivre dans un monde sans lui. La vie continue, les matins se succèdent, les enfants grandissent, un nouveau chat rejoint la maison. Et après la grande tristesse, c'est la peur de l'oubli qui survient. Et si tout redevenait comme avant? Voici un extrait de Inconsolable d'Adèle Van Riet, lu par elle-même.
Le 24 janvier 1975, à Cologne, au milieu de sa tournée européenne commencée 2 ans plus tôt, Keith Jarrett s'assoit au piano, déstabilisé et désabusé. Le piano qu'il a devant lui n'est pas le sien. Il ne lui convient pas, il n'a pas envie de jouer. Il est entré en scène sans jeter un regard au public, de la colère sans doute, du mépris, dira-t-on, mais il est là. Et il n'a pas envie d'offrir du grand spectacle. Alors il fait ce que nous faisons tous dans ces cas-là. Il fait avec ce qu'il a. Il se raccroche à ce qu'il y a devant lui, à ce piano qu'il n'aime pas, et à l'écho de la sonnerie qui a annoncé le début du concert dans le hall quelques minutes plus tôt. La sonnerie qui indique aux spectateurs qu'il est temps de gagner la salle et de s'installer à leur place. Une sonnerie en 4 notes. Sol, ré, do, la. 4 notes qui sont un simple signal et qu'il transforme immédiatement en musique à peine assis au piano. Sol, ré, do, la. 4 notes. Montre-nous le chemin. Toi qui ne parles pas. Toi qui n'écris pas. Toi qui joues et inventes au creux de l'hiver, en plein mois de janvier, ce que nous avons au plus profond de nous. L'exacte musique de notre cœur inconsolable. Existe une tristesse sans consolation. Un état de l'âme puissant et indépendant de toute causalité explicite. C'est l'inconsolable, ce sentiment de perte qui persiste, la certitude qu'il manque quelque chose à notre vie, comme si nous n'étions pas complets, et que de cette incomplétude originaire naissait non pas de la frustration, ni de la colère, mais un chagrin sans nom et sans visage. Nous ne pouvons pas le nommer, nous ne pouvons pas le comprendre, et le plus souvent, il suffit de se tenir bien droit et de mettre un sourire dans ses yeux, et tout le monde n'y verra que du feu. Mais parfois, la trappe s'ouvre et l'on dégringole. C'est un mouvement vers le bas et une absence de terre ferme, pas de main auquel s'accrocher. Dans cette tristesse se loge la certitude qu'il n'y a pas de retour possible. C'est l'expérience de l'unilatéral. La tristesse nous attrape et s'arrange pour que nous ne puissions pas l'esquiver, en créant en nous l'envie subite de coïncider avec elle. Laissez-moi seul. Je suis si triste et je voudrais le rester quelques minutes. Ne pas penser à autre chose. Devenir tristesse et rien d'autre. Cette tristesse peut devenir une histoire d'amour toxique. Au début, sa puissance nous effraie et nous donne envie de courir le plus loin possible pour lui échapper. Puis on prend goût à son intensité. On en vient à en redemander et à ne plus pouvoir se passer d'elle. On se surprend à chercher des moyens pour la faire durer et à avoir besoin d'elle pour apparaître. Elle est devenue nous, nous sommes devenus elle. Un corps à corps fusionnel qui suce le sang goutte après goutte. Un jour, on comprend qu'on a besoin de sa dose, tous les jours, plusieurs fois par jour. On se came à la tristesse, encore une larme, encore une pensée triste. On s'isole pour que l'effet soit plus fort, pour ne pas avoir à subir le regard des autres ni à rendre de compte. Quand on est seul, les lèvres peuvent se tordre et les yeux s'inonder sans honte. On a appris à le faire en cachette. On ferme la porte, on s'accroche à une image et c'est parti. Les larmes coulent. Et après, on se sent mieux. Si les yeux sont rougis quand on revient, ce n'est pas grave. Au contraire, exhiber les marques de la tristesse est une manière d'indiquer ce qu'on vit. Ne pas complètement se couper des autres. Et comment entretenir l'espoir d'être un jour consolé si on ne montre pas qu'on est triste?
Adèle Van Rietz sur la musique de Keith Jarrett, dont il était question d'ailleurs au tout début de cet extrait, avouez que c'est particulièrement craquant. Elle dit encore, Madame Van Rietz, pour nous proposer son livre, pour nous dire un petit peu ce qu'on y trouve, ce qui nous soulage peut-être. Elle dit « La vie, même dans l'impossible face à face avec la mort, se trouve dans cette alternative. Quand le temps s'étire, on s'ennuie. » Quand le temps s'arrête, on gémit. Le drame, se demande-t-elle, n'est-il qu'une suspension provisoire de nos soucis? Mais alors, nous autres, êtres inconsolables, avons-nous la possibilité de jouir de l'existence en connaissance de cause? Voilà tout ce que vous pourrez trouver dans cette lecture, dans l'écoute de Inconsolable d'Adèle Van Rietz. A-t-elle pu jouir de la vie, Madame Angela Merkel, comme elle le désirait, avec une telle charge politique, géopolitique sur les épaules? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu le temps finalement d'écrire sa biographie qui s'appelle « Liberté ». Angela Merkel, faut-il le rappeler, chancelière de la République fédérale d'Allemagne de 2005 à 2021, qui a été la première femme à occuper la fonction suprême de son pays. Elle est née à Hambourg en 1954. Elle a grandi en République démocratique, en RDA, où elle a étudié la physique et passé son doctorat. Elle a été élue en 1990 au Bundestag. De 91 à 94, elle a été ministre fédérale des femmes et de la jeunesse. De 1994 à 1998, elle a été ministre fédérale de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire. Elle a présidé de 2000 à 2018 l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, autrement dit le CDU. Et en 2021, elle a mis fin à sa carrière politique active. Voici le prologue de ce livre « Liberté » qui nous en dit déjà beaucoup.
Ce livre raconte une histoire qui ne se répétera plus jamais, ne serait-ce que parce que l'État dans lequel j'ai vécu pendant 35 ans n'existe plus depuis 1990. Au début 2022, quelques semaines après que j'ai eu quitté mes fonctions de chancelière, un interlocuteur m'a dit que si on avait proposé à un éditeur d'utiliser cette histoire comme trame d'un roman, celui-ci l'aurait refusé. Cette personne savait de quoi elle parlait et se réjouissait que je me sois décidée à écrire ce livre, justement parce que le récit qu'il déroulait était aussi réel qu'improbable. Je compris que raconter cette histoire, évoquer ses lignes, trouver ses fils rouges, désigner ses leitmotivs, pouvait aussi avoir une influence sur l'avenir. J'ai longtemps été incapable d'imaginer écrire un tel livre. C'est en 2015 que cela a commencé à changer un peu. J'avais à l'époque décidé de ne pas faire refouler à la frontière austro-allemande les réfugiés arrivés de Hongrie dans la nuit du 4 au 5 septembre. Cette décision, et les conséquences qu'elle a eues, tracèrent à mes yeux une ligne de partage dans mes mandats de chancelière. Il y eut un avant et un après. À l'époque, je me promis qu'un jour, lorsque j'aurais quitté mes fonctions, je raconterais sous une forme que seul permet un livre ce qui avait motivé ma décision, et parce qu'elle lui était liée, ma vision de l'Europe et de la mondialisation. Je ne voulais pas laisser à d'autres le soin d'en faire le récit et l'interprétation. Mais j'étais encore en poste. Suivirent les élections de 2017, au Bundestag, et mon quatrième mandat. Au cours de ces deux dernières années, la gestion de la crise du Covid-19 fit oublier tous les autres sujets. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la pandémie représentait un défi de grande ampleur pour la démocratie, sur le plan personnel, national, européen et mondial. Elle m'a aussi incité à ne pas cantonner mon récit à la question des réfugiés et à élargir mon champ de vision. Quitte à le faire, autant que ce soit pour de bon, ai-je songé, et dans ce cas que ce soit avec Beate Baumann, qui me conseille depuis 1992 et a été le témoin de cette époque. J'ai quitté la chancellerie le 8 décembre 2021. Je suis partie la joie au cœur, comme je l'ai dit à la cérémonie de départ, organisée en mon honneur par la Bundeswehr quelques jours plus tôt. J'avais vraiment attendu ce moment. Trop, c'était trop. J'avais besoin de faire une pause, de prendre quelques mois de répit, d'échapper à l'essoufflement que provoque la politique pour entamer à partir du début de l'été 2022, lentement, en tâtonnant, une nouvelle vie. Certes toujours publique, mais coupée de la politique active. Il me fallait trouver le bon rythme pour mes interventions publiques et m'atteler à ce livre. Tel était le projet. Et puis, il y eut le 24 février 2022, l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Je compris aussitôt qu'il était totalement exclu d'écrire ce livre comme si rien ne s'était passé. Les guerres de Yougoslavie au début des années 1990 avaient déjà secoué l'Europe, mais l'offensive russe contre l'Ukraine remettait encore plus de choses en question. C'était un acte contraire au droit international qui bouleversait l'ordre pacifique instauré sur le continent après la Seconde Guerre mondiale. Ordre fondé sur la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ses États. Il créa une profonde désillusion. J'en parlerai aussi dans ces pages. Pour autant, il ne s'agit pas d'un livre consacré à la Russie et à l'Ukraine. Ce serait un autre ouvrage. J'aimerais plutôt raconter l'histoire de mes deux vies. La première, jusqu'en 1990, sous une dictature, et la seconde, depuis cette date, en démocratie. Au moment où les premières lectrices et les premiers lecteurs auront ce livre en main, ces deux églises auront eu à peu près la même durée, 35 ans chacune. En réalité, bien sûr, elles ne constituent qu'une seule vie, et la seconde partie n'est pas compréhensible sans la première. Comment une femme qui avait passé les 35 premières années de sa vie en RDA, a-t-elle pu accéder à la fonction suprême en République fédérale d'Allemagne et l'occuper pendant 16 ans. Une fonction qu'elle a fini par quitter sans avoir jamais dû démissionner de l'un de ses mandats ou en être éloignée par une défaite électorale. Que signifiait grandir en RDA quand on était fille de pasteur? Que représentait le fait de vivre, d'étudier et de travailler dans le contexte de la dictature? Que signifiait vivre l'effondrement d'un État et se retrouver libre tout à coup? Voilà ce que je veux raconter. Ce récit est bien sûr profondément subjectif. Je me suis efforcée de mener une réflexion sincère sur moi-même. J'y évoquerai ce que je considère aujourd'hui comme des erreurs, je défendrai ce que je considère comme juste. Ce n'est pas pour autant un récit dépourvu de lacunes. On n'y retrouvera pas tous ceux qui pensaient peut-être y être ou qu'on s'attendait à y voir figurer. Je demande par avance l'indulgence sur ce point. Mon but est de faire apparaître des lignes forces afin que se dégage un sens de cet énorme matériau. J'aimerais faire comprendre comment fonctionne la politique, quels principes et quels mécanismes la régissent, et ce qui m'a guidée. La politique n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce sont des hommes et des femmes qui la pratiquent, des individus avec ce qui les a marqués, avec leurs expériences, leurs vanités, leurs faiblesses, leurs forces, leurs souhaits, leurs rêves, leurs convictions, leurs valeurs, leurs centres d'intérêt. C'est comme cela que j'ai fait de la politique. C'est comme cela que je vis. C'est aussi comme cela que ce livre a vu le jour. Avec cette attitude qui est également le fruit d'une expérience. Tout est possible parce que le monde politique n'est pas le seul à y contribuer. Parce que chaque individu peut en prendre sa part.
J'ai décidément très très hâte que l'ami Gérald Cousineau nous en parle de ce livre, lui qui va le déguster par les oreilles cette semaine. Voilà ce qui met un terme à cette émission. La vie incroyable de Angela Merkel racontée dans cette bio signée par elle-même qui s'appelle Liberté. On se revoit la semaine prochaine. Salut.